et à tous, vous écoutez Info Club Sandwich, votre quotidienne d'actualité locale et associative. Aujourd'hui dans le studio, je suis avec Thomas pour sa première à la technique. Romane, toi, tu nous as préparé une chronique.
Oui, on va parler cinéma et pop-corn.
Et Benjamin, tu as deux petites actus pour la deuxième partie de l'émission.
Bonjour, oui, tout à fait.
Alors avant ça, on va s'écouter l'interview réalisée par Aline. Donc elle reçoit Aurélie Fourré d'Embellis Sciences et Stéphane, éducateur à l'environnement, donc Stéphane Ibarrondeau, dans le cadre de la Journée de la Terre.
Aujourd'hui, nous recevons Stéphane Ibarrondeau et Aurélie Fourré de Embellis Sciences à l'occasion de la Journée de la Terre. Déjà, bonjour à vous deux.
Bonjour.
Bonjour.
Stéphane, vous êtes éducateur à l'environnement et animateur nature. Pouvez-vous nous dire en quoi ça consiste, simplement ?
En réalité, je vais à la rencontre principalement des écoles, mais pas que. Donc, pour découvrir justement l'environnement, c'est-à-dire tout ce qui nous entoure. Donc, c'est vrai que c'est principalement la nature, mais ça correspond aussi à des choses parfois un peu moins rigolotes, c'est-à-dire ça va être sur des thématiques telles que les déchets, les énergies, des thématiques que l'on entend beaucoup à l'heure actuelle également, qui sont importantes. Et donc, quand on parle d'éducation, c'est surtout pour essayer de donner des explications, des informations sur les jeunes pour qu'ils puissent arriver à comprendre les tenants, les aboutissants de certaines choses. Et donc, je propose des animations dans les classes directement ou... Je propose aux classes de venir directement, si c'est dans un site naturel, pour découvrir ce milieu, la faune, la flore, comprendre comment tout ça vit ensemble. Et puis, je fais des animations nature, pour d'autres groupes parfois, que ce soit des centres de loisirs. Exceptionnellement, maintenant, pour du grand public, c'est quelque chose que j'ai mis un peu de côté à l'heure actuelle. Non pas que ce ne soit pas intéressant, mais voilà, c'est toujours un peu compliqué de faire tout. Donc, un peu de grand public en ce moment, parce que c'est le festival Le Oiseau, par exemple. Et donc, je fais des sorties dans ce cadre-là.
D'accord. Donc, vous proposez du coup des parcours en baie de Somme. J'ai vu aussi que c'est dans différents milieux, donc que ce soit la forêt, les fleuves, la baie de Somme, c'est bien ça ?
Ouais, exactement. C'est-à-dire que je travaille vraiment sur le département de la Somme, donc avec tous les milieux que l'on peut rencontrer dessus, tous les milieux qui sont accessibles en tous les cas non privés. Donc c'est sûr qu'on va trouver principalement toutes les zones humides, parce que forcément on est traversé par un fleuve, donc tous ces affluents. On va avoir toutes les zones de marée qui sont importantes. Le littoral picard, forcément, qui est un incontournable. Et puis, on a quelques massifs forestiers donc qui peuvent être intéressants à découvrir aussi. Et parfois, pourquoi pas, ça m'arrive de plus en plus maintenant, parfois, d'aller aussi dans les écoles et de découvrir simplement le milieu dans lequel ils sont. Donc, ça peut être un terrain agricole simplement un parc, pourquoi pas.
Et du coup, si je comprends bien, vous n'avez pas forcément de journée type. Ça va dépendre de votre public.
Oui, ça c'est l'avantage de ce métier-là, c'est que justement, en réalité, une même animation, avec forcément parfois dans un lieu différent, ou simplement avec des élèves différents, ou d'un public différent de toute façon, sera forcément différente. Il n'y aura pas le même intérêt pour le public. Si c'est en extérieur, on a parfois des choses, si on voit aussi un animal qui passe, il y est une journée, il n'y sera peut-être pas le lendemain. Donc c'est des choses qui changent et ça c'est ce qui est intéressant justement par rapport à ça.
Vous prenez le temps en fait de découvrir, d'observer et de comprendre la nature et c'est pour ça que vous organisez des parcours. Qu'est-ce qui est important pour vous et à transmettre dans ce truc de prendre le temps d'observer, d'être dans la nature ?
Si on prend pas le temps d'observer, en réalité, on ne peut pas réellement comprendre. C'est-à-dire qu'il faut déjà savoir ce qui existe autour de nous. Et ça, c'est la grande difficulté à l'heure actuelle. On a quand même malheureusement une tendance, à mon avis, actuelle, à quand même beaucoup moins sortir, que ce soit les jeunes ou les moins jeunes d'ailleurs. Et le problème, c'est que je me rends compte quand même, ça fait déjà longtemps que je fais ça, et donc je me rends compte que, par exemple, j'ai de plus en plus d'élèves qui ne savent pas ce qu'est une grenouille, un crapaud, ou ce genre de choses qui n'étaient pas le cas quand j'ai commencé à faire ce métier. Mmh. Donc c'est pour ça que, d'où le fait de découvrir, pour moi, c'est la première chose. Il faut prendre le temps de pouvoir observer les choses, de pouvoir au cas où les toucher aussi. C'est important de toucher les choses parce que parfois, quand on n'ose pas toucher, ça fait peur. Et ce qui fait peur, on y prête moins attention. Mmh. Et donc, si on veut que les gens respectent tout ça, il faut d'abord qu'ils puissent l'observer, comprendre ce qu'ils font ici, pourquoi ils sont là. Et on peut espérer, justement, dans ce cas-là, que les gens aient une compatissance pour arriver justement à préserver cet environnement qui est quand même en grande détresse actuellement.
Donc selon vous, c'est l'enjeu en fait finalement de toutes vos activités, c'est la préservation et la sensibilisation à l'environnement.
Voilà, c'est la préservation, tous les cas, de ce que l'on connaît dans l'environnement, puisque l'environnement a cet avantage, c'est qu'il se modifie au gré de ce qu'il y a. Mais en fait, on a quand même un gros enjeu à l'heure actuelle, c'est celui de la biodiversité. Parce que la biodiversité, on la connaît à l'heure actuelle, on sait qu'on a déjà plein d'espèces qui ont disparu. Et malheureusement, on sait qu'on va encore avoir beaucoup d'espèces qui vont disparaître dans les années à venir, parce que il y a plein de choses qui font que. Et au point où il y aura même des espèces que l'homme n'aura jamais connues. C'est-à-dire qu'elles auront vécu pendant que nous sommes vivants. Mais par contre, en réalité, on n'a pas eu le temps de les découvrir. Et elles seront disparues avant qu'on ait le temps de les découvrir.
Et justement, vous, vous faites ça depuis longtemps, vous l'avez dit. Vous voyez là, ça, cet impact, le changement de la biodiversité dans votre métier de tous les jours?
Ouais, on voit, selon les sites, c'est plus ou moins marquant, mais on voit des modifications, alors que ce soit des modifications au niveau des milieux en eux-mêmes, donc avec certaines disparitions de milieux. Et puis forcément, si on a des impacts sur les milieux, ça a des impacts sur la faune et la flore. Donc d'un côté, on a des espèces qui ont tendance, que l'on voit beaucoup moins fréquemment, qui sont beaucoup plus difficiles à voir. Et puis au contraire, on a des espèces qui, elles, s'amplifient, que l'on voyait beaucoup moins avant, beaucoup plus rarement, mais qui sont plus fréquentes ou que l'on voit à l'année, ce qui n'était pas le cas. Par exemple, on a des espèces d'oiseaux qui vont maintenant qui vont être sédentaires, alors qu'à l'époque, elles étaient plutôt migratrices. Maintenant, on va les voir toute l'année. Et puis, on a des espèces qu'on ne préférait pas voir. On a des espèces, justement, qui s'acclimatent très bien chez nous. Et en fait, on a de plus en plus d'espèces, ce qu'on appelle les exotiques envahissantes, qui, malheureusement, elles sont justement envahissantes et font parfois disparaître nos espèces locales.
Et vous parlez un peu plus tôt de scolaires, d'élèves, etc. Et justement, le mois prochain, en partenariat avec Ombelli Science et avec des élèves du lycée agricole des Hauts-de-France à Abbeville, Stéphane, vous animez une séance sur la découverte de la biodiversité avec notamment une visite du Able d'Olt. Alors, qu'est-ce que c'est un Able ou un Able, hein?
Le Able d'Olt, oui, c'est un Able. Alors, c'est vrai que c'est pas forcément quelque chose qu'on connaît. C'est en fait, il est unique en France. Il n'y en a pas d'autre. Donc, en fait, le mot Able, il vient de Havre. C'est simplement, ça veut dire que c'était un ancien port. C'est en fait cette zone donc, qui se trouve entre Olt et Cayeux-sur-Mer. La particularité, c'est que en fait, c'est du terrain, c'est du polder, c'est du terrain gagné sur la mer. Au départ, naturellement, c'est-à-dire qu'en réalité, la géologie locale fait que les galets qui proviennent des falaises se déplacent vers le nord et en fait se décaler légèrement vers la mer, au point où ça a créé des lagunes derrière. Et puis l'homme s'est dit un beau jour, ça serait intéressant de pouvoir essayer d'endiguer, de gagner un peu de terrain. Et donc ça a servi pendant longtemps de refuge aux bateaux. Donc en fait c'était une zone qui était quand même justement encore maritime. Et puis maintenant, depuis déjà longtemps, en réalité on a clôturer totalement cette zone qui est maintenant en fait une zone de marée arrière littorale, une zone particulièrement intéressante mais sensible parce que elle n'est protégée que par un malheureux cordon de galets.
D'accord. Et justement, vous visitez cet endroit-là avec des jeunes. Quel est pour vous l'intérêt de prendre le temps de faire ça, de faire ça avec des jeunes, de faire visiter ce genre d'endroit avec des élèves notamment?
Alors, on va aller exactement à Onival. Donc, Onival, c'est juste à côté de Holt. Alors, c'est un point un peu stratégique parce qu'on est vraiment à la frontière entre différents milieux. On se trouve, en fait, c'est la fin des falaises de Cré, que l'on connaît. Les falaises normandes se terminent en Picardie. Et donc, elles se terminent justement à Onival. Là, elles disparaissent. Alors, c'est pas qu'il n'y a plus de falaises. Après, en fait, on a ce qu'on appelle des falaises mortes qui s'étendent jusqu'à Saint-Vary-sur-Somme. Et donc, à partir de là, commence le fameux cordon de galets qui va séparer, la mer de l'ancienne falaise avec ce marais derrière. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que sur ce site-là, on a choisi avec ambition ce site-là justement parce qu'il a plusieurs intérêts. Alors déjà, on va pouvoir voir un peu les conséquences de toutes les problématiques de dérèglement actuel. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup du niveau de la mer qui augmente. Et donc, en fait, là, on est sur un site où ça risque d'y avoir des impacts énormes. Parce que d'un côté, les falaises, alors elles reculent déjà, mais elles risquent de reculer encore plus. Donc, ça veut dire que là, il va y avoir un impact humain, parce qu'en réalité, il y a des maisons qui vont être concernées. Et puis, un impact aussi pour les oiseaux, par exemple, qui nichent sur les falaises. Alors, ça ne les empêchera pas de nicher, il y aura toujours mais bon, c'est toujours un problème. On a certaines espèces qui vivent sur le platier, qu'il va falloir qu'ils s'adaptent parce que ça sera un peu différent. Et puis le Hable d'Holt, je vous ai dit, il est protégé que par un cordon de galets. Si la mer augmente, ce cordon de galets, il est entretenu par l'homme pour résister à une tempête en fait équivalente à celle de 1990. En 1990, cette digue en fait a cédé et on l'a renforcé pour résister à une tempête équivalente. Mais quand on vient de... on ne sait pas réellement si une tempête supérieure à ça ferait que ça résisterait. Et si ça ne résiste pas, ça veut dire que c'est la mer qui entre. Et la mer qui entre, forcément, toute la faune et la flore qui s'est adaptée à l'intérieur de ce milieu, ne va pas forcément apprécier d'être sous l'eau salée pendant plusieurs jours comme ça. Donc, c'est un gros enjeu. Là, au niveau humain, parce que c'est des terrains parfois de particuliers qui pourraient être perdus, etc. Et puis un enjeu pour la biodiversité, parce qu'on a des espèces qui sont pas faites pour aller en eau de mer. Mmh. L'objectif, mon rôle, en fait, justement, c'est pour ça que j'aime bien t'entendre dire que je suis animateur ou éducateur, c'est-à-dire que le but, c'est pas de faire un monologue et de leur présenter tout ça, c'est aussi qu'ils puissent réfléchir d'eux-mêmes sur ce que ça va avoir comme conséquence. Alors, généralement, parfois, je vais leur montrer des photos de l'époque ou ce genre de choses qui leur permettra de voir les changements qu'il y a eu entre, on va dire, une photo d'il y a 100 ans du site et une photo actuelle, et de façon à ce qu'ils se rendent vraiment compte de ces modifications et de se dire, si ça augmente, si ça s'amplifie encore, ça peut être catastrophique en tous les cas pour le site.
Et donc vous organisez cette visite en partenariat avec Ombelliscience, justement Aurélie, vous êtes chargée de communication et des médias chez Ombelliscience. Pour commencer, est-ce que vous pouvez rappeler ce que c'est Ombelliscience ?
Oui, bien sûr. Alors donc Ombelliscience, c'est l'agence régionale de culture scientifique en Hauts-de-France. En fait, on fédère un réseau d'acteurs. Voilà, qui développe en fait le partage des connaissances scientifiques. Vraiment, toutes nos actions, l'objectif, c'est développer le partage des connaissances scientifiques, ce qu'on appelle la culture scientifique en Hauts-de-France. Voilà, et donc on est une association qui existe depuis 1997. Et dans notre réseau régional, en fait, il y a une soixantaine d'acteurs. Parmi les acteurs, on va trouver des structures en fait de l'enseignement supérieur et de la recherche, voilà, organismes de recherche, des universités, des écoles d'ingénieurs, et on peut trouver aussi donc des acteurs culturels, des com, des bibliothèques, des centres socioculturels, évidemment des centres de sciences, des musées, voilà, tous les acteurs qui contribuent au partage des sciences dans la région. Et donc voilà, on propose un certain nombre d'actions. Voilà, on anime des rencontres professionnelles, on coordonne la fête de la science en région, on organise des parcours justement pour les jeunes.
Justement, on va parler de ces parcours-là. En fait, c'est des parcours PEPS, c'est des dispositifs de la région Hauts-de-France qui visent à favoriser l'accès à la culture des lycéens, lycéennes et apprentis. et vous avez mis en place un parcours qui s'intéresse en fait à la biodiversité et plus particulièrement à l'adaptation des espèces au dérèglement climatique. Est-ce que vous pouvez m'expliquer en quoi ça consiste, comment va se dérouler ce parcours et aussi me dire quel est l'enjeu de ce genre de dispositif sur ce thème-là?
Donc cette année, on travaille avec trois classes déjà, qui se situent dans la Somme, donc à Abbeville et à Péronne. Trois classes donc de lycéens, lycéennes. Et ça se déroule en cinq séances. La première séance, c'est notre médiateur scientifique Bertrand qui vient en classe et il met en place un espace un peu d'échange, de réflexion et de débat autour de la question de la biodiversité, du dérèglement climatique, voilà, avec des jeux interactifs. Ensuite, la deuxième séance, c'est un experte comme Stéphanie Barondeau. Voilà, il y a aussi par exemple Marine Blaisel qui vient de Picardie Nature pour justement, échanger autour de la notion de la biodiversité. Et ensuite, c'est suivi avec cet expert ou cette experte d'une visite d'un site. Donc, avec Stéphane, ça va être sur le Hable d'Holt, mais voilà, avec Marine, ça peut être. En tout cas, c'est un lieu voilà, dans la Somme. Ça, c'est vraiment une nouveauté de cette année. C'est que là, les jeunes, c'est bien de parler de biodiversité, mais il y a besoin d'aller sur le terrain, en fait, pour se rendre compte, effectivement, concrètement, OK, on en parle, c'est dans la théorie, aux infos, on en parle, mais voilà, de voir, de toucher, effectivement. Ah oui, concrètement, là, autour de chez moi, il y a ça qui peut se passer, il y a ça qui est en train déjà de se passer, en fait. Donc, c'est vraiment les enjeux derrière pour nous, c'est vraiment de prendre conscience. C'est de la culture scientifique hein, à 100%, comment ça marche, la faune, la flore autour de chez moi, voilà, de se rattacher en fait au quotidien, au concret. C'est vrai que quand c'est théorique, on oublie, je trouve, souvent plus facilement. Quand on est dans le concret, dans ce qui nous entoure, c'est des choses dont on se souvient, je trouve, plus facilement. Donc, c'est aussi pour ça qu'on fait ça. Et l'étape ensuite d'après, les deux dernières séances, en fait, c'est un travail un peu de storyboard. Enfin, c'est les élèves vont réfléchir à une trame de récit pour ensuite poser un peu à plat les observations. Ils auront vu un peu tout ce qu'ils ont intégré et de mettre ça ensuite soit sous forme de podcast, soit sous forme de vidéo. Voilà, qui vont filmer eux-mêmes, faire des montages. Et ensuite, bah, nous, l'idée, c'est qu'on le diffuse.
D'accord. Et ça, c'est vos parcours, du coup, qui sont réservés, entre guillemets, qui sont pour les élèves, en fait, pour les lycéens, lycéennes.
Exactement.
Mais vous coordonnez aussi un dispositif qui s'appelle Parcours Super Espèces. Ça, c'est aussi à destination des enfants, adolescents et adolescents de la région. C'est de 8 à 14 ans. Et ce programme-là, il est en dehors du temps scolaire. C'est bien ça?
Exactement. En fait, c'est un programme qui est financé et en partenariat par l'ADREAL Hauts-de-France. L'ADREAL, eux, travaille avec les établissements scolaires et Ombellisciences en parallèle. Nous, on travaille justement avec les jeunes, donc de 8 à 14 ans, comme vous l'avez dit, mais hors temps scolaire.
D'accord.
Voilà. Donc, c'est en partenariat, surtout avec des médiathèques, des centres de loisirs, des centres socioculturels, voilà, entre autres.
Et, du coup, c'est le même objectif de sensibilisation aux jeunes, etc.
C'est vraiment, oui, de sensibiliser les jeunes à la biodiversité.
D'accord.
Voilà. Vraiment ça pour qu'ils prennent conscience de ce qui se passe. Voilà, parce que bon, dans la culture scientifique, derrière nous aussi, il y a un enjeu fort, hein, surtout avec ce qui se passe dans certains pays, on le sait actuellement, autour des fake news. Voilà, de partir aussi de données scientifiques, de rappeler ça aussi régulièrement, en fait. Et c'est pas juste une idée comme ça, et c'est pas juste ce qu'on voit, en fait. Il y a aussi sur l'ensemble du globe, et en France, et dans la région, et dans la Somme, des données scientifiques qui existent. Il y a plein de labos de recherche, dont un, voilà, sur Amiens, le laboratoire Edison, qui est vraiment spécialisé autour de l'écologie et l'environnement, qui peut rappeler ces chiffres.
C'est une sensibilisation, et ça permet aussi aux jeunes de voir, en fait, les effets. Quels sont le principal intérêt pour vous deux, du coup, c'est une question pour vous deux, de ces programmes et activités?
Je trouve qu'il y a plein de choses, moi, en fait, derrière. C'est difficile d'en lister un, parce que la sensibilisation, enfin, je ne sais pas Stéphane, mais derrière, c'est aussi, il y a la prise de conscience, c'est faire le lien aussi, je trouve, entre le travail des chercheurs et chercheuses, des experts, expertes, et du public, qu'il soit scolaire ou non scolaire, et de sensibiliser dès le plus jeune âge pour aussi prendre soin. Derrière, il y a aussi cet objectif du prendre soin, l'intérêt des sciences, en fait, aussi derrière, l'appétence pour les sciences. Ah oui, en fait, ça sert à ça dans mon quotidien.
L'objectif, on ne se rend pas toujours compte de notre. De l'utilité directement. C'est-à-dire qu'en fait, On est là pour mettre des pierres à l'édifice. Et puis, en espérant... En réalité, on sait toujours que ce que les enfants ont vu, en réalité, relativement jeunes, ils le gardent en mémoire. Et donc, à partir de là, ils pourront justement plus facilement se dire ah, « je dois faire ceci ou je ne dois pas faire quelque chose par rapport à ça ». Mais c'est vrai que ce n'est pas toujours facile de se dire « ah, je vais avoir ces élèves-là ». Et puis, parfois, en sortie, je finis parfois les sorties. Je ne peux pas me dire « ah tiens, je sais qu'ils sont comme ça ». Je peux l'espérer, mais je ne sais pas réellement. Je sais que de toute façon, j'aurai certains enfants qui seront plus touchés que d'autres parce que voilà, selon les enfants sont aussi dans un contexte familial parfois ou quoi que ce soit qui fera que ce soit parfois plus facile. Mais malgré tout, pour moi, le premier intérêt, c'est que déjà, ils auront observé quelque chose, eu des informations sur ça. Une méthode parfois selon ce que l'on fait et c'est ça qui peut-être que ça il y aura peut-être pas d'infos ça fera peut-être rien dans les 5 ans, dans les 10 ans, mais à la rigueur si dans 20 ans plus tard eh ben en réalité ça leur rappelle quelque chose et qu'ils font des actes par rapport à ça, ben, en réalité ce sera le principal. C'est pas l'immédiat. Alors, c'est vrai que maintenant, on se retrouve, c'est vrai qu'on a plutôt une tendance à l'urgence parce qu'on entend toujours parler plein de choses et que tout devient urgent. Mais j'aurais tendance à dire, il faut aussi leur laisser parfois le temps de récupérer tout ce qu'ils ont eu comme information. Parfois, ce n'est pas toujours simple non plus.
Merci d'être venu nous présenter votre métier, embellissance, etc. Merci beaucoup Stéphane et merci beaucoup Aurélie d'être venu sur Radio Campus Amiens.
Merci à vous.
Merci de nous avoir accueillis. From the cradle bars comes a beckoning voice that sings spinning. You have no choice. Yeah.
C'était Spellbound des Banshees. Vous êtes toujours à l'écoute d'InfoClub Sandwich. Et je me tourne vers toi, Roman. Alors, avant qu'on commence ta chronique, c'est ton dernier jour à Radio Campus Amiens.
Oui, le dernier jour, ça y est. Je réalise pas encore que demain, je reviens pas
à la radio à 9h pétante.
Ouais.
Écoute, j'espère que ça a été cette expérience de plusieurs mois. En tout cas, c'était cool de faire partie de cette aventure avec toi.
Bah, c'était cool également, plaisir partagé.
Et je te laisse finir en beauté avec une chronique.
Oui, alors je sais qu'il est l'heure du repas. Et loin de moi d'ailleurs l'envie de faire gargouiller votre ventre en parlant de pop-corn. Mais vous êtes-vous déjà demandé pourquoi est-il marié au cinéma, si on peut parler de mariage? Pourquoi même un youtubeur qui parle ciné s'appelle-t-il Captain Popcorn? Eh bien, remontons à la fin du 19e siècle. Nous sommes aux États-Unis et Charles Kretors, c'est un confiseur américain de l'Illinois qui invente un chariot ambulant à vapeur qui va permettre de faire griller des cacahuètes et du maïs. L'odeur du beurre fondu sur le maïs notamment attire les visiteurs à la foire mondiale de Chicago qui se pressent devant le stand et ne résistent pas à l'envie d'y goûter. Et bonne nouvelle, ces machines sont mobiles comme le sont les foires, le cirque, etc. Et le popcorn s'invite de plus en plus sur ces lieux de loisirs qui se développent à cette époque. Puis vient le cinéma, on est au XXe siècle et quand les premières salles apparaissent, les propriétaires ne veulent pas entendre parler du popcorn, mais alors surtout pas. En fait, ils veulent absolument plaire à une clientèle riche qui aime le luxe et le popcorn à cette époque est considéré comme quelque chose de beauve, de populaire. Les sachets débordants des poubelles feraient tache. Et puis on ne voudrait surtout pas que les popcorns s'écrasent sur les tapis et moquettes qui coûtent cher, disons-le. Et vu que les films sont muets à l'époque, le mâchouillement du popcorn risquerait notamment de gâcher l'expérience des autres spectateurs. Quelqu'un qui mange, ça s'entend tout de suite dans la salle, hein. Bref, interdit au popcorn, il est prohibé. Mais boum, le crack financier de 1929 vient redistribuer les cartes. Les gens cherchent à se divertir pour pas cher, le cinéma devient accessible et surtout, le pop-corn ne coûte qu'entre 5 à 10 cents. Surtout qu'ensuite, avec la Seconde Guerre mondiale, le sucre est rationné, donc clairement, c'est le pop-corn qui s'impose et tout le monde peut en manger. Les vendeurs ambulants s'installent devant les salles de cinéma et les gens achètent leurs paquets qu'ils cachent dans leur sac ni vu ni connu au moment d'entrer dans la salle. Les propriétaires de cinéma se rendent compte du trafic au bout d'un moment et ils finissent par céder, surtout qu'ils comprennent que le pop-corn est un bon moyen finalement d'attirer les gens au cinéma. Ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils proposent aux vendeurs ambulants de s'installer dans leur salle ou dans le hall en échange d'un loyer payé. Et finalement, le pop-corn s'invite comme étant le sauveur du cinéma car il permet aux salles de survivre à ce moment-là. Et le comble dans tout ça, c'est bien que les propriétaires qui étaient au départ anti-popcorn proposent désormais des publicités incitant les gens à consommer la fameuse friandise. Et pas n'importe laquelle, le popcorn jaune, leur marque de fabrique, parce qu'avant on proposait du popcorn blanc, mais le jaune rappelle le beurre, il est plus alléchant, et il détrône le blanc qui ne représente plus que 10% des ventes. D'ailleurs, d'après une étude menée par BFM TV, pour terminer sur un chiffre comme tout bon journaliste le ferait, en 2016, aux États-Unis, la vente des boissons et de confiseries représente toujours 40% des revenus des salles, contre 15% en France, mais néanmoins, il n'empêche que le popcorn et partout.
Eh ben merci beaucoup. Team salé ou team sucré?
Team sucré.
Ah, les débuts. Et toi, Benjamin?
Caramel.
Caramel. Ah, tu peux pas être soit l'un, soit l'autre.
Non, moi, c'est différent.
Merci, Roman. On a appris plein de choses. C'était super. Je me tourne vers toi, Benjamin. Maintenant, toi, tu nous as concocté deux petites actualités pour aujourd'hui.
Avis aux familles amiennoises, les inscriptions pour les accueils de loisirs et les centres d'animation jeunesse pour l'été 2025 sont ouvertes. À partir du mardi 22 avril et jusqu'au samedi 14 juin, vous pouvez inscrire vos enfants de 3 à 17 ans dans les différents lieux, pour les 3 à 6 dans les maternelles, pour les 6 à 12 dans les écoles élémentaires et pour les ados de 12 à 17 dans les centres d'animation jeunesse. Les inscriptions se font à l'accueil de l'hôtel de ville ou dans les mairies de secteur. Si votre enfant est déjà inscrit dans un accueil périscolaire ou extrascolaire cette année, vous pouvez vous adresser directement au directeur de l'accueil. Dans le cas contraire, il faudra passer par le pôle accueil de votre mairie de secteur pour constituer votre dossier. Les centres seront ouverts en juillet du 7 au 1er août, en août du 4 au 29 août selon les lieux. Plusieurs pièces, euh, plusieurs, pièces justificatives sont à fournir pour calculer votre quotient familial individuel, comme le livret de famille, un justificatif de domicile ou encore votre dernier avis d'imposition. La liste complète est à retrouver sur le site amiens.fr/accueil-de-loisirs. Enfin, si votre enfant souhaite déjeuner sur place et n'est pas inscrit à la restauration scolaire, il faudra penser à inscrire également pour les repas. Pour continuer avec les actus du jour, je vous propose un café, une discussion et un moment de rencontre avec la police municipale. Ce mercredi 23 avril, de 14h à 16h, rendez-vous sur le parvis de la Maison de la Culture, place Léon Contier, pour l'opération « Un café avec un policier ». Autour d'un café ou d'un thé, vous pourrez échanger librement avec les agents de la police municipale, policiers, ASVP, brigade verte, etc. Tous seront présents pour répondre aux questions, discuter du quotidien et faire découvrir leur métier. C'est tout pour moi, les actus du jour, c'est déjà fini.
Eh ben, merci Benjamin. Merci aussi à vous, chers auditeurices, pour votre écoute. On se retrouve demain pour un nouvel épisode de votre quotidienne Info Club Sandwich. En attendant, retrouvez l'intégralité de l'émission du jour sur radiocampusamiens.fr. On se quitte avec My Girl d'Otis Redding. À demain. I've got the month of May. Oh, I guess you say, what can make you, me feel this way? It's my girl talking about my girl. I've got so much love. All the bees into me. I've got a sweeter song that I can sing. The new birds in the trees.